Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous allons parler du chœur Odyssée qui revient dans notre territoire à la cathédrale d'Audi avec Philippe Simon. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez déjà passé ici pour nous présenter quelque chose dans cette même cathédrale.
Tout à fait. Il y a 2 ans, presque pile poil, on avait déjà fait un premier programme autour de Monteverdi, mais c'était exclusivement sur sa musique sacrée. Là, c'est le projet phare autour de Monteverdi. C'est un projet très, très particulier, très ambitieux aussi.
Ce qui est très connu de Monteverdi, c'est ses madrigaux, qui ne sont pas particulièrement sacrés d'ailleurs.
Oui, les madrigaux, alors nous les avons chantés l'année dernière, mais on n'est pas passé à Die. On a essayé de sillonner un peu tout le département, puisque le chœur Odyssée est drômois. On a effectivement eu en 2017 tout un programme de madrigaux, des œuvres, des chants d'amour en polyphonie, magnifique. C'est vrai que c'est particulièrement Monteverdi, sans doute le dernier compositeur à avoir porté l'art du madrigal à son sommet.
N'est-ce pas le dernier compositeur baroque même ?
Non, baroque, puisque Monteverdi a vécu une époque à la charnière entre la Renaissance et l'art baroque. Donc ce qu'on peut dire certainement, c'est que c'est le dernier compositeur de la Renaissance.
Ah oui.
Et qu'il en est l'héritier, en quelque sorte, dont il se réclamait vraiment. Et on le voit dans ses dernières œuvres sacrées, justement, qu'il est vraiment l'héritier des Palestrina, Victoria, et Cyprien d'Aurore aussi, dont il parlait beaucoup. Mais il est aussi un des premiers compositeurs baroques. Et il se trouve à la charnière, et dans son œuvre, on trouve tout ça.
Bon, bah, j'ai dit l'inverse. Philippe Simon, puisque vous avez commencé à le dire, est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation de ce chœur Odyssée, histoire de se remémorer ?
Évidemment, le chœur Odyssée, je l'ai créé en 2005. C'est un petit ensemble vocal, un chœur qui recrute surtout des choristes expérimentés, qui connaissent la polyphonie, qui sont habitués à chanter en chœur, parce que c'est chanter en chœur, c'est une aventure, hein. C'est faire corps avec la voix des autres, chercher l'harmonie ensemble. Donc là, c'est un petit chœur qui a oscillé entre 15 et 25 personnes. Là, actuellement, le chœur Odyssée est constitué en fait de 2 groupes maintenant, puisque j'ai créé après 2005 à Puy-Saint-Martin, autour de Montélimar, Dieulfi, Cray. Voilà, les choristes viennent un peu de cette région-là. Et j'ai créé ensuite un deuxième chœur Odyssée à Chabeuil, donc autour de Valence, Romans, Cray aussi. Et ces deux chœurs travaillent dans le même esprit, puisqu'ils ont le même chef. Hein. Je suis la personne qui choisit le répertoire et les dirige, les entraîne vocalement et musicalement toutes les semaines. Et donc les deux chœurs se retrouvent à l'occasion des concerts pour donner une architecture sonore plus diversifiée, c'est-à-dire que chacun des deux chœurs a un répertoire particulier et puis se retrouve sur des morceaux en commun, donc avec un effectif de 36 choristes, puisque les deux chœurs comprennent chacun 18 choristes.
Oui, donc vous pouvez les faire se croiser sur des morceaux, ou alors, ce que j'entends, c'est ça, c'est que dans le même concert, il pourrait y avoir un répertoire chanté par l'un, un répertoire chanté par l'autre.
Voilà, et puis avec des points de rassemblement sur des œuvres qui demandent plus de majesté, plus de magnifique. Et bien voilà, du coup, on a 36 choristes.
C'est pas mal, ça.
Oui. C'est surtout impressionnant dans le répertoire qu'on a choisi cette année.
Et j'entends aussi que donc c'est pas forcément des amateurs. Donc vous avez
si ils sont tous amateurs. C'est un chœur. Moi évidemment c'est mon métier. Je suis musicien professionnel, chef de chœur, instrumentiste. Je joue aussi de la harpe baroque. Et par contre tous mes choristes sont des amateurs, donc qui n'en font pas leur métier, mais qui sont passionnés. Le point de liaison de tous ces choristes et qui sont tous passionnés de chant, passionnés de musique, passionnés de la voix et qui sont prêts à donner leur temps pour à la fois travailler personnellement entre les répétitions, pour préparer nos répétitions, pour que les répétitions soient vraiment un moment de plaisir, d'interprétation musicale et pas un moment uniquement d'apprentissage. Et aussi donner de leur temps pour, quand le moment arrive de faire les concerts, eh ben, voilà, ça se passe par exemple ce week-end, on a une répétition générale à Valence, le lendemain un concert à Valence, à l'église Notre-Dame, et puis le lendemain le concert à la cathédrale de Die. Et tout ça, ben, ça fait quand même du temps que les choristes sont prêts à donner pour faire du beau.
Et cette question du coup de niveau, c'est pas trop disparate, on peut rentrer facilement finalement dans le chœur Odyssée ou il faut quand même être un peu auditionné par vous sans doute?
Ah oui, évidemment, tout à fait, j'auditionne tous les choristes, mais ceci dit, le plus important c'est je pense la motivation de chacun. Et bon, dans le groupe, parmi tous ces 36 choristes, certains lisent la musique, d'autres compensent par d'autres qualités, la mémoire, la qualité, la précision de l'audition et puis surtout la justesse de la voix.
Voilà. Et quand vous faisiez une différence entre celui de Puy-Saint-Martin et celui de Chabeuil,
oui,
pourquoi ?
Effectivement, suivant son histoire, hein, le premier chœur Odyssée que j'ai créé en 2005 à Puy-Saint-Martin, mais du coup, c'est vrai que les choristes sont plus expérimentés peut-être que le chœur qui est plus jeune, que j'ai créé en 2014.
De Chabeuil.
Oui, voilà.
Et donc, du coup, il y a une vraie différence, par exemple, dans le choix du répertoire. On ne peut pas les faire travailler au même niveau
Si, parce qu'il y a quand même des choristes d'assez bon niveau dans les deux chœurs, et ça me permet de pouvoir faire une partie du répertoire en commun.
Quelle est la méthode Philippe Simon?
Ah, c'est une bonne question sans doute, hein, puisque j'ai des choristes qui me suivent depuis très longtemps. Hein. En dehors du chœur Odyssée, je dirige d'autres chœurs dans toute la Drôme, j'en ai 7 chaque semaine et sur des répertoires très différents. Et donc j'ai des gens qui me suivent depuis plus d'une dizaine d'années.
Il y en a qui sont dans les 7.
Non, ce sont des répertoires très différents.
Oui.
Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qui passe à travers les voix. La voix d'abord, il faut le savoir, le chant, c'est un art qui guérit. Donc il y a beaucoup de gens qui le savent et se font du bien en chantant. En chantant, oui c'est sûr, on se fait du bien, on se guérit, on s'ouvre des portes, on va à la découverte de soi-même. Ça c'est sûr et ça c'est commun à tous les répertoires, que ce soit la musique baroque, la musique médiévale ou bien la chanson contemporaine, hein, que j'interprète aussi avec d'autres chœurs, ou les chants du monde aussi. Voilà, c'est peut-être ça ma méthode d'une part, c'est-à-dire ma recherche de l'authenticité de chaque voix. Je pense que là on est sur la bonne voie avec un E quand on cherche sa voix avec un X. Qu'on n'essaye pas de chanter comme quelqu'un d'autre, mais qu'on chante avec qui on est et qu'on a cette dimension d'être authentique quand on chante. C'est ce qui ressort de mes mises en voix, puisque quand on commence une répétition, eh bien, on fait une mise en voix, un échauffement vocal, c'est-à-dire un peu de technique vocale qui doit toujours rester ludique. Quand on chante, ben, on redevient enfant, on se lâche, on doit être à l'aise, donc on commence par une mise en corps, une mise en voix, c'est se sentir vivant dans tout son corps, attentif à le chanteur, et il doit se guider à des sensations, des sensations dans le corps, sensations vocales, dans la bouche, dans le front, dans les yeux, dans les sinus, dans l'assise au sol. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes et sans doute mes choristes apprécient que j'ai cet œil-là, même si on s'en va sur des répertoires ambitieux pour les présenter devant un public.
Faut-il du coup aussi être dans certaines conditions? Vous les orientez un petit peu sur...
Ben, je pense que cette gymnastique hebdomadaire...
Parce que c'est presque du sport, hein, le
oui,
chant.
Oui, bah, tout ouais. À fait. Vous avez dit le mot. Le chant, c'est un sport complet. Parce qu'on fait travailler aussi bien le corps que l'esprit. Donc c'est vrai que c'est un sport complet. Hein. Quand on chante, tous les muscles du corps travaillent. Les muscles du dos, du ventre, le diaphragme, tout le corps travaille. Et c'est une dynamique hebdomadaire hein, qui, rien que ça, ben, le fait que ce soit hebdomadaire et puis que à part ça, ben, les choristes peuvent s'entraîner, sont encouragés à s'entraîner entre chaque répétition. Depuis quelques années, particulièrement cette année, je fais appel à une autre professionnelle du chant pour donner des cours de chant à ceux qui le désirent.
Plus personnalisé, du coup.
Voilà, plus personnalisé, des cours de chant individuels ou par deux ou par trois. Et ça marche bien. J'ai beaucoup de mes choristes qui sont vraiment motivés, qui sont preneurs. Et donc, en dehors des répétitions, eh bien, ils viennent prendre des cours de chant avec une autre personne, professionnelle du chant, professeur de chant, chanteuse.
Et quand on doit réviser chez soi, vous avez là aussi une méthode de travail particulière ? Je ne sais pas, on peut travailler peut-être sur bande enregistrée comme
quoi ? Oui, alors depuis pas longtemps, j'ai découvert un logiciel qui est assez, assez miraculeux, bien aimé de tous mes choristes. Ça s'appelle MuseScore. L'intérêt, c'est qu'on peut voir la partition défiler sur l'ordinateur, en même temps qu'on peut entendre sa voix. Voilà, le gros souci pour les chanteurs dans des œuvres en polyphonie à 4, 5, 6 voix, eh ben c'est d'apprendre sa voix qui est souvent masquée. Il ne suffit pas d'entendre un CD chanté par un chœur. Si on chante les voix du milieu, les voix de ténor, d'alto, soprano 2 par exemple, eh ben, il faut pouvoir travailler au clavier pour ceux qu'ils peuvent, ou bien travailler justement avec ce fameux logiciel qui permet de... Alors c'est très commode parce que ça permet d'isoler une voix des autres. Donc on entend la voix simplement musicalement, sans les paroles, et on peut l'isoler, la mixer plus ou moins en avant, ralentir le tempo dans les passages difficiles, arrêter, reprendre où on veut, faire des boucles. Enfin, c'est vraiment un logiciel qui permet vraiment d'accélérer la cadence de travail pour qu'on puisse ne pas se lasser même quand on travaille des œuvres difficiles.
Ouais, c'est parfait pour les répètes, ça, c'est effectivement.
Ouais, ouais, vraiment.
Est-ce que, comme tous les chœurs, vous pâtissez du manque d'hommes ?
Alors, oui, un petit peu. C'est vrai que là, cette année, on recrute particulièrement des hommes dans les deux chœurs. Surtout à Puy-Saint-Martin, on recrute plutôt des basses. Et donc, Puy-Saint-Martin, c'est autour de Montélimar, Diolfi, Cré. Là, on recrute plutôt des basses. Et puis, à Chabeuil, on recrute plutôt des ténors.
Et pourquoi les hommes viennent moins chanter ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense pas avoir la réponse, mais je constate que moi, à l'époque où, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je faisais moi-même, je m'inscrivais à des stages de chant ou de yoga ou de tai chi ou d'autres choses qui sont proches comme ça, eh bien, j'étais souvent le seul homme où on était très peu nombreux. Il y avait beaucoup plus de femmes dans ces groupes. Pourquoi ? Question de sensibilité. C'est mystérieux. C'est bon, dans certains chœurs, je n'ai pas à me plaindre, où j'ai plus d'hommes. Bon, dans l'ensemble, je ne me plains pas parce que j'ai aussi ce qu'on recherche souvent dans les chorales, mais d'après ce que me disent mes collègues, c'est à la fois des voix d'hommes et à la fois des voix jeunes. Et là, de ce côté-là, je n'ai pas trop à me plaindre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir et ces dernières années, j'ai recruté beaucoup de jeunes choristes. Mais c'est vrai, c'est souvent plus, y a souvent plus de femmes que d'hommes. Alors, bon, par exemple, j'ai trouvé des solutions pour utiliser le matériau à ma disposition, et notamment ben, le répertoire de cette année, l'année dernière aussi, quand on a chanté les madrigaux de Monteverdi. Beaucoup de chœurs à 5 voix, où il y a 3 voix de femmes et 2 voix d'hommes. Donc, si j'ai 2 tiers de voix de femmes et 1 tiers de voix d'hommes, eh ben, ça convient bien à ce qui a été écrit par le compositeur.
Et ça permet donc de s'en sortir quand même. Le fait que vous produisiez aussi sur scène, c'est quelque chose qui est déjà prévu, hein. Personne n'est pris au dépourvu quand il vient dans votre cœur. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut peut-être un peu bloquer les gens ? C'est pas évident de se mettre en avant.
Oui, c'est pas évident. Je pense que ce qui a été peut-être difficile par moment, c'est pour la vie privée, quand il y a trop de concerts. Chaque année, je fais un bilan avec tous mes choristes pour avoir leur ressenti. savoir comment ils ont vécu notre saison. À travers ces petites réunions, il y a des choses qui sortent, comme le besoin quand même de préserver sa vie privée, hein, surtout pour des jeunes choristes qui ont des bébés, comme là j'en ai plusieurs cette année dans mon groupe. Il faut trouver un juste équilibre pour à la fois qu'il y ait suffisamment de concerts pour rentabiliser le travail de préparation qu'on a fait, qu'on puisse au moins, quand le programme est enfin arrivé à maturité, qu'il sonne et qu'il est prêt à donner en concert, qu'on ne le donne pas qu'une fois, ni deux fois, ni même trois fois.
Mais c'est un objectif qui est clairement inscrit. C'est-à-dire que tout le monde sait que oui. L'idée, c'est de faire des concerts quand même.
Oui, c'est pas l'objectif premier. Mais il me paraît, je pense à tout le monde, tous mes choristes, une fois qu'on a réussi à mettre une œuvre à la monter et qu'elle commence à sonner, et il faut pouvoir l'offrir, il faut pouvoir la donner. C'est dans ces moments-là qu'on donne le meilleur de soi-même. Et là, j'en veux pour preuve que les quelques enregistrements que j'ai pu faire, les meilleurs enregistrements sont toujours les enregistrements live, comme on dit. Quand on est devant un public, eh ben, ça y est, on est obligé de donner le meilleur. Et c'est une expérience fantastique quand même, que je pense que tous les choristes sont très heureux de vivre. Hein. Maintenant, bon, voilà, trouver l'équilibre pour qu'il n'y en ait pas trop cette année. En tout, on a décidé de faire 6 concerts, parce que c'est un gros projet très ambitieux, comme vous allez le voir, on va bientôt en parler.
Oui.
Eh bien, les 6 concerts, je les ai dispatchés, d'abord 2 fin juin, 2 mi-septembre, et puis 2 fin novembre. Ça permet de respirer entre-temps et puis de pas trop stresser les choristes et puis de laisser suffisamment de place à la vie de famille et la vie privée.
Vous êtes, professionnel hein, dans ce travail. Vos choristes sont donc amateurs, on va dire donc bénévoles, en fait, finalement, adhérents.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils sont adhérents de l'association Chœur Odyssée.
Et là, comment ça se passe pour les concerts?
Alors, les choristes, même comme dans toutes les chorales, comme dans tous les chœurs amateurs, payent une cotisation pour pouvoir suivre ce travail hebdomadaire tout le long de l'année avec un professionnel qui les entraîne vocalement, qui les fait progresser, qui les emmène vers le public, je dirais. Voilà, donc ça se passe un petit peu de la même façon dans toutes les chorales. Vous parliez peut-être donc qui est rémunéré. Ben, là, en l'occurrence, les professionnels qui nous accompagnent. En l'occurrence, cette année, c'est un programme projet particulièrement ambitieux puisqu'on a décidé de rémunérer 6 musiciens professionnels.
Un sextuor vous accompagne.
Voilà.
On va rentrer dans le détail de ce programme, Philippe Simon, Chœur Odyssée. Alors donc c'est Monteverdi, un compositeur italien qui est donc amené dans un programme ambitieux, vous disiez, à la cathédrale de Die. Qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Un Orfeo imaginaire. Voilà. C'est un titre qui pose question.
Effectivement.
Ah ben c'est fait pour, justement. Puisque bon, les gens qui connaissent Monteverdi, vous m'avez parlé des madrigaux, c'est peut-être le plus connu encore, c'est cet opéra, qui est paraît-il le premier opéra de l'histoire, hein, au début de l'ère baroque, en 1607, cet Orfeo de Monteverdi, qui est une œuvre splendide, incroyablement étonnante.
Compliquée même un peu.
Oui, oui, oui. Compliqué, étrange, ouais. Mais en même temps, c'est une œuvre qui passe la rampe. C'est une œuvre qui, quand j'étais adolescent, j'étais plutôt à l'écoute de Ray Charles ou de musique de rock. Et bien, c'est une œuvre qui m'a complètement accompagné dès mon adolescence. C'est une œuvre très forte, qui a un impact émotionnel énorme. Et j'ai choisi justement, après... Fort de notre complicité, hein, le Chœur Odyssée, donc tous mes choristes, depuis 3 ans, vivent autour du langage musical de Monteverdi, puisqu'on a d'abord donné ce concert qu'on a donné à Die il y a 2 ans, autour de la musique sacrée, d'une messe de Monteverdi, des motets. Et puis ensuite, l'année dernière, on a donné des madrigaux. Après cette complicité avec le langage de Monteverdi, qui est très particulier, très flamboyant, très enflammé, eh bien voilà, c'est le moment de s'attaquer au chef-d'œuvre de Monteverdi. Et je dis au pluriel, hein, au chef-d'œuvre de Monteverdi. Voilà, c'est le moment de donner cet opéra Orfeo qui m'a toujours impressionné. et qui, je pense, ne peut pas ne pas impressionner le public. Alors, la gageure, c'était quoi? C'était faire quand même un concert pour chœur.
Eh oui, parce qu'un opéra.
Voilà, un opéra, c'est quand même avec des solistes. Et là, mon désir, c'était justement de mettre le chœur sur scène, un peu à la manière, je vais vous dire, de la tragédie antique. Quand on va voir une tragédie grecque antique, eh bien, il y a ce personnage central, c'est le chœur. Il est là pour les exhortations. Allez, vas-y, le roi, vas-y. Et puis ensuite, il est là pour les lamentations. On pleure tous ensemble, hein, comme les pleureuses grecques qu'on trouve encore aujourd'hui, dans la Grèce d'aujourd'hui. Donc ce chœur, eh bien, c'est le personnage de mon opéra choral que j'ai appelé Orfeo imaginaire. Parce que c'est un autre Orfeo. Alors Monteverdi, ben de là-haut, il doit me regarder avec un petit clin d'œil pour cet Orfeo un peu coquin que je me suis permis un Orfeo imaginaire parce que Monteverdi lui-même a successivement essayé deux fins différentes à son Orfeo. Vous connaissez l'histoire d'Orphée qui commence, c'est la fête de son mariage avec la belle Eurydice, et puis en pleine fête de mariage, on vient lui annoncer qu'elle s'est fait piquer par un serpent et qu'elle est morte. Donc là, il y a les deux premiers actes de cette opéra, c'est une fête de noces joyeuse, enflammée avec des ritournelles instrumentales. Donc là, il y avait bien besoin effectivement de tous nos instruments, de ce sextuor, c'est les musiques de danse, hein, c'est les musiques vraiment... très joyeuse. Les chœurs aussi, il y a des chœurs mixtes, des chœurs d'hommes aussi, autour de l'amitié et puis de la fête de noces. Et il y a même des petits sketchs comme dans une fête de noces. Et puis tout d'un coup, eh bien, à ce moment-là, le chœur, ben, comme je vous disais,
la tragédie. Ouais.
Le chœur est là pour déplorer, lancer ce cri déchirant « Ai, caso acerbo !» Ah, sort funeste, étoile, injuste, stelle injuriose. Et là, la musique s'achève avec une espèce de symphonie, une symphonie à funèbres. Et le deuxième acte, le rideau tombe. Et là, la petite ritournelle du début de l'Orphée, qui ouvre le rideau au prologue, avant même le premier acte, cette ritournelle, Monteverdi l'a fait revenir là. Comme si, voilà, ça me donnait le feu vert pour...
Après tout...
Pour faire eh ben, un troisième acte différent, puisqu'il a déjà refermé le livre. Et là, alors, dans l'opéra de Monteverdi, à partir du troisième acte, donc les troisième, quatrième et cinquième, c'est beaucoup un travail de soliste. Il y a de très, très longs solos. Donc, ça se rapproche plus de l'opéra baroque, hein. Et là, au lieu de... J'ai fait un choix assez inspiré, je dois dire, parce que Monteverdi lui-même, à la même époque où il a composé son Orfeo, il a lui-même perdu sa femme, donc un peu comme est morte Eurydice, et il a aussi perdu une de ses chanteuses, une de ses élèves, chanteuses les plus douées, au même moment. C'est quand même étrange. Et à cette même époque, il a écrit... on lui a commandé une ode funèbre et il a écrit un ouvrage magnifique qui est dans le sixième livre de madrigaux, des madrigaux a cappella, les madrigaux à cinq voix. Ça s'appelle La Sestina. Et là, on retrouve dans cette œuvre qui dure à peu près 20 minutes, on retrouve curieusement la même ambiance que dans l'Orfeo, que dans les deux premiers actes de l'Orfeo. On retrouve les mêmes personnages mythologiques. Les nymphes, les nappés, les dryades. Le chœur s'adresse au même personnage et on pleure la Corinna, cette fois-ci c'est plus Eurydice, Corinna qui est disparue, et le malheureux berger qui a perdu son amante. Ça s'appelle La Sestina, il y a un sous-titre, c'est Les lagrimas dell'amante al sepolcro dell'amate, les larmes de l'amant devant la tombe de l'aimé. Et on se voit mettre un genou en terre devant la tombe de la malheureuse pour se rapprocher, pour lui parler. Et cette œuvre est d'une beauté poétique et musicale à la fois, avec des mots vraiment très, très, très troublants. Il y a tous les émotions, les sentiments de l'âme humaine qui passent avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On passe du désespoir à l'espoir, de la résignation à la révolte, à l'émerveillement de revoir l'être aimé, et puis à l'apaisement, jusqu'à l'apaisement final. Et par moments, les éléments s'y mettent. Hein. D'ailleurs, on dit, ah oui, ben, je ne serai pas seul à pleurer, il y aura le ciel avec moi, les nymphes et même les bêtes sauvages. Et on entend dans la musique, on entend les flots, les vagues, on a l'impression d'être sur un bateau en pleine mer déchaînée. C'est vraiment une œuvre splendide qui est très peu jouée, beaucoup moins connue que l'Orfeo, et qui date de la même époque. Donc, on est dans le même style musical, on est dans la même verve poétique, mythologique. Et donc, voilà. Les mêmes deuils, exactement. Donc, je me suis dit, eh bien, au lieu d'aller avec Orphée aux enfers, oser braver Pluton et demander, demander qu'il lui rende sa promise, eh bien, Orphée, il va accepter de faire son deuil. Et ses camarades bergers, choristes, vont l'entourer pour chanter cette déploration funèbre, cette sestina, qui est la sestina, c'est un mot qui nous vient des troubadours, troubadours du XIIe siècle. Hein. Le Dante en parle, des grands troubadours de Provence qui, en langue provençale, écrivaient des poèmes dans une forme poétique absolument sophistiquée, où les rimes, il y a six rimes. Donc sestine, il y a six rimes, il y a six strophes, et à chaque strophe, les six rimes se retrouvent décalées, un peu comme dans un labyrinthe en forme d'escargot, jusqu'à l'envoi final. Voilà, c'est une œuvre très mystérieuse, mais tellement émouvante, que voilà, je me suis dit, ben, Orphée ne descendra pas aux enfers cette fois-ci, et je vais proposer à Monteverdi de descendre avec la sestine. Et quand à la fin, on est vraiment, on sent le chant nous apaise à la fin. Voilà, paix à toi, Glaucus, paix à toi, pris sur une tombe honorée, une terre sacrée. Et la musique s'apaise. Et là, eh ben, ce sera l'entracte. Et après l'entracte, ce n'est pas aux enfers qu'Orphée va retrouver son Eurydice, c'est au paradis. Donc la muse de la musique va l'emmener, le prendre par la main, lui faire monter une longue ascension qui fait partie de nos décors, hein, puisque ce projet a été mis en scène. Donc la muse de la musique va l'emmener, le faire monter jusque là-haut. Et c'est avec des chants sacrés, des extraits des fameuses Vêpres de la Vierge de Monteverdi, qui est peut-être la deuxième œuvre phare du compositeur, et qui date aussi à peu près de la même époque, 1610. Donc on a choisi trois extraits, le Dixit Dominus et puis le Magnificat pour finir. Et là, à la fin de ce parcours, Orphée reverra son Eurydice. C'était quand même, vous me direz, c'est vrai, c'était quand même... Même Monteverdi lui-même, il était torturé de voir, il a essayé deux fins différentes. Quand même, il a été chercher son Eurydice, il se retourne parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, et hop, elle disparaît, c'est terminé. Ben, mon pauvre Orphée, tu ne la reverras plus jamais. C'est horrible. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on va lui donner une chance. Il va la voir au paradis. Puis, en fait, c'est vrai que Monteverdi est un grand compositeur de musique sacrée. Donc, c'est l'occasion de faire cette deuxième partie avec les Vêpres de la Vierge.
Bon, bah, c'est un sacré mix. Alors, trois œuvres de Monteverdi en une.
Oui, exactement.
Et alors, la partie arrangement, Orphée n'est pas un soliste.
Alors, j'ai découvert dans mon cœur, je l'ai découvert depuis déjà quelques temps, puisque certains choristes naviguent avec moi depuis quelques années, je sais que j'avais quelques solistes en puissance qui attendaient que ça, voilà, et qui sont très bons solistes. C'est le moment. Orphée, je pense qu'il attendait ce moment depuis fort longtemps et il avait exactement la voix pour chanter Orphée. Donc moi, ce que je n'ai fait, et puis les autres, voilà, à part ça, il y a la muse de la musique, et il y a Eurydice, qui a un rôle très court, hein, parce qu'Eurydice, elle meurt très vite, donc elle a un rôle très court. Et il y a la messagère, qui a aussi un rôle très important. C'est aussi mon rôle en tant que directeur musical et chef de chœur de déceler, parmi mes choristes, ceux qui peuvent et qui voudraient faire plus, qui vont oser chanter seul. La seule chose que j'ai fait, c'est écourter un petit peu les passages solos pour qu'il y ait un équilibre entre le chœur et les solistes. Ça n'a pas été trop difficile parce que dans les deux premiers actes d'Orphée, les rôles solistes ne sont pas très longs. Mais j'ai juste coupé des petits passages pour que le public aussi puisse suivre l'histoire. Bon, le public est français, l'histoire est chantée en italien. Ceci dit, le public aura un petit livret, tout est traduit. Peut-être les gens qui viennent un peu à l'avance auront juste le temps de lire le synopsis de ce projet, hein, c'est-à-dire l'action. Et puis ensuite, tous les textes sont traduits, ils ne sont pas trop longs. Et la langue italienne est quand même une langue sœur, cousine de la langue française. Et pour peu
au
que
bout de 5-10 minutes, on finit par comprendre quand même.
On finit par comprendre, surtout que c'est mis en scène. Et là, je vais venir peut-être à cet élément, parce que ça, c'était un élément totalement nouveau que je n'ai jamais vraiment fait. Si en 2011-2012, on a un petit peu mis en scène des projets de musique médiévale qu'on a donné à la fête médiévale de Cré, par exemple. Mais là, c'est vraiment... Ben, c'est un metteur en scène, Maurice Garnier, qui est venu me trouver, qui a entendu parler par un ami de mon projet, qui est venu me trouver pour me dire que mon projet l'intéressait et voilà, me proposer de mettre en scène cet opéra choral. Alors là, c'est une nouveauté, parce que là, vous me direz, mes choristes, ils n'avaient pas signé la feuille de route pour faire de la mise en scène.
Voilà. Et puis pour bouger en même temps, parce pour que déjà chanter, on a dit que c'était un sport, mais bouger un peu en même temps qu'on chante.
Voilà, exactement, parce que c'est ce qui se passe. Même les choristes qui ne sont pas solistes, il y a que dans la fête de noces, ils font des mouvements, ils dansent presque. Et tout ça, ça veut dire lâcher
opéra,
sa... Ah oui, un vrai opéra, comme j'en ai vu encore un au Théâtre de l'Archevêché à Aix il n'y a pas longtemps. C'est magnifique de voir tous les choristes prendre une part vraiment théâtrale et donc chanter par cœur. Là, ça a été une gageure pour mes choristes. On s'est dit, eh ben voilà, si vous êtes d'accord, je vous propose ça. Il n'y a que la première partie, c'est-à-dire la première partie, c'est sur Orphée, les deux premiers actes d'Orphée. Là, il faut vraiment chanter tout par cœur pour pouvoir regarder, communiquer avec à la fois le chef, le public et puis les solistes et faire vivre cette fête de noces comme il se doit. Voilà, donc ils ont joué le jeu. Beaucoup étaient un peu réticents au départ. Et on a fait un petit débriefing il n'y a pas longtemps, après nos deux premiers concerts. Et c'est vrai que j'ai des retours fantastiques de cette expérience. C'est grisant. On découvre qu'on arrive à chanter encore beaucoup mieux quand on fait plus que chanter, parce qu'on s'oublie encore mieux. On dépasse ses inhibitions. Et le résultat, ceux qui ont vu les petites vidéos qu'on nous a faites sont surpris de la beauté, de ce que ça donne.
Cette mise en scène, donc, on parlait de mouvement, mais on va embarquer aussi des décors. Oui. Vous avez des costumes aussi, sans doute.
Des costumes et des décors. Donc ça a été peut-être le plus difficile à vivre dans toute l'équipe. Et encore une fois, en même temps, ça a permis des expériences très, très intéressantes. Il a fallu construire des décors et confectionner des costumes. Choisir le tissu, découper, coudre,
tout ça en interne,
faire des patrons, tout ça en interne. On a fait juste appel, heureusement on a eu un petit peu des aides, le département nous a soutenus, la communauté de communes du Val-de-Drôme nous a soutenus aussi, différentes mairies, depuis Saint-Martin où on est, le Crédit Mutuel, enfin, on a fait appel aussi à une Valence Service, une entreprise d'insertion professionnelle sur Valence. Tout le département couture s'est mis donc à nous aider, parce que c'était quand même beaucoup de travail pour mes choristes, et pour mes choristes aussi, beaucoup de travail de monter ce décor, donc menuiserie. Alors, c'est là qu'on découvre des compétences incroyables, et à l'occasion de ces fabrications, de voir là, tout d'un coup, une espèce de solidarité naître avec de nouvelles amitiés, notamment, par exemple, pour monter les décors. Là, la veille de notre week-end de concert, il va falloir venir en avance, une équipe qui va venir en avance, monter les décors, ensuite les retirer à la va-vite parce que hop, le lendemain, on a un concert ailleurs. C'est les tréteaux de la compagnie de Molière. Hein. C'est le théâtre du soleil, hein, Ariane Mouchkine. On découvre ça et on découvre que finalement, on se découvre des amitiés et c'est pas si mal que ça. Ceci dit, on ne ferait pas des projets comme ça chaque année, parce que c'est beau, c'est beaucoup de travail.
Et vu l'ambition d'un projet comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt vocation à tourner longtemps ?
Oui, 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 je pense qu'après tout le travail qu'on s'est donné, puis le matériel, les décors, les costumes, et puis tout ce qu'on a enregistré dans notre mémoire de ce projet, des musiques et de la mise en scène, on peut le garder tout en montant, c'est ce qu'on a prévu cette année, de faire un autre répertoire, alors totalement zen, a cappella, sans instrument, sans mise en scène, sur des polyphonies de la Renaissance. Et avis aux amateurs qui sont intéressés, aux choristes intéressés, motivés à venir nous rejoindre, et un programme autour des polyphonies de la Renaissance, avec un pont sur l'époque contemporaine, des compositeurs jeunes d'aujourd'hui qui écrivent des choses magnifiques avec des couleurs d'aujourd'hui, mais qui se marieraient fort bien avec les dernières œuvres de la Renaissance. Passer d'un William Byrd à Ola Jello, un compositeur scandinave d'aujourd'hui, un jeune qui écrit des choses magnifiques. Voilà, ça serait un projet où on se concentrerait sur la qualité vocale, l'harmonie du chœur, et qu'on peut travailler tout en se gardant la possibilité de redonner notre Orfeo imaginaire à l'occasion, si on nous le demande, si on nous l'achète, maintenant qu'on l'aura montré et fait entendre.
C'était ma question suivante. Vous achète-t-on des spectacles ? Quelle suite il y a à ça ? Parce que là, on entend effectivement presque une autoproduction, oui. L'indépendance sur ce niveau-là, jusqu'à monter les décors soi-même. Est-ce qu'enfin, ça pourrait être quelque chose qui tourne, qui puisse partir un petit peu plus loin et qui soit vendu ?
Partir un petit peu plus loin, peut-être pas vraiment en priorité, parce qu'on a quand même un chœur constitué de choristes amateurs, et même s'ils sont passionnés, ils ont une vie privée, des enfants, un métier aussi, hein. Il n'y a pas que des retraités chez nous. Et donc ce serait peut-être difficile à moins d'envisager une tournée, ça peut se faire après tout, pendant petites vacances à Pâques, où ça peut s'envisager. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on aurait le désir, cette fois-ci, maintenant qu'on aura montré de quoi on est capable et l'originalité de ce projet, de le vendre, puisqu'on a quand même mouillé la chemise et on a pris beaucoup de risques pour produire nous-mêmes. Dans, parmi les 6 concerts, il n'y en a qu'un seul qu'on a vendu à une association qui programme des concerts. Les autres, eh ben, c'est nous qui avons pris les risques. Ça veut dire faire la publicité. Donc ça, je préférerais maintenant passer le relais à des structures, soit des théâtres ou des associations qui ont pour mission de programmer des spectacles, de nous acheter notre projet Orphée ou Imaginaire.
Deux annonces alors aujourd'hui par Philippe Simon, le recrutement de choristes, hein, n'hésitez pas, oui. Et puis cher programmateur, si vous entendez cette interview.
Voilà, oui, vous aurez l'occasion d'entendre ce programme, ce projet Orphée ou Imaginaire, samedi à Valence, dimanche à Die, et ensuite les deux dernières seront au mois de novembre, 24 et 25 novembre, à Bourg-de-Péage et à Bonlieu-sur-Roubion. Voilà, comme ça, on aura sillonné un peu toute la Drôme, mais pas toute. Donc, il reste encore de la place pour le sud de la Drôme, le nord de la Drôme ou d'autres endroits.
Largement, oui. Pour la cathédrale de Die, l'heure
alors,
à quelle heure on se donne rendez-vous ?
Le concert est à 17h30. Et puis, les gens qui veulent être bien placés peuvent soit réserver à l'avance, soit venir un peu à l'avance pour être sûr d'avoir de bonnes places.
C'est en relation avec l'association des Amis des Arts et du Musée, c'est ça ?
Voilà.
Donc là
ça.
Aussi, les gens localement connaissent, hein, et
mais
pourront
oui,
demander des renseignements.
Tout à fait, ils sont très présents sur Die.
Et vous avez vous-même des supports de communication ?
Oui, on a un site Cœur Odyssée, qui est facile à trouver sur Internet, Cœur Odyssée. Vous tapez Cœur Odyssée, là il y a beaucoup de renseignements sur les répertoires du chœur, sur nos concerts, justement les dates des concerts, les prix des places, etc. Et comment fonctionne le chœur, le recrutement aussi. Le Cœur Odyssée se fait de plus en plus connaître puisque c'est la deuxième année qu'on a organisé cet été un stage national.
Ah oui.
Et là on a eu la fameuse Sestina dont je vous parlais, qui sera au chœur de ce projet, a été chanté donc, chez nous, à Chabeuil. On a une grande salle de chant, de répétition. Il y avait des choristes de toute la France, de Belgique et de Suisse qui sont venus chanter avec nous en une semaine. Donc des choristes suffisamment brillants pour avoir tout déchiffré à l'avance et venir pour faire de l'interprétation en une semaine. C'est un travail passionnant. Il y a trois de ces choristes qui ont même poussé leur motivation jusqu'à venir de la région parisienne et Montpellier pour nous rejoindre ce week-end et chanter
pour
avec
faire
eux.
Les concerts.
Oui.
Et ces stages vont se reproduire alors ?
Oui, tout à fait.
Voilà, donc on se renseigne sur votre site internet.
Tout à fait.
Par exemple. Philippe Simon, merci.
Merci à vous.
À la prochaine, au moins au prochain passage, pourquoi pas dans cette cathédrale de Die.
Oui, sans doute. Merci.